Donc c'est un petit addendum au podcast qu'on vous propose ici. C'est bien entendu la même question. La critique vidéoludique est-il question de naïveté ou d'amateurisme dans le fief des gens qui la pratiquent, qui tous les jours se fatiguent à faire des choses? Et nous avons avec nous, bien entendu, Monsignore Delusol Master.
Oui, bonjour.
Bonsoir. C'est totalement pas prévu et impromptu. Donc, on voulait se demander l'un dans l'autre, quel est ton avis sur la critique vidéoludique de nos jours? Penses-tu que c'est une question de naïveté dans la démarche?
À la démarche, oui. Enfin, quand je vois l'effervescence de la scène de critique amateur, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune réflexion même sur l'exercice de cette critique. Pourquoi je le fais? C'est là où on va trouver de l'égotisme. Pourquoi je le fais? Bah, pour dire quelque chose. Et si finalement j'ai quelque chose à dire, bah, ça peut être sur les jeux vidéo puisque j'y joue tous les jours. Voilà.
Ok. Donc,
c'est ce qui était ma démarche initiale, faut le dire. Et ensuite, t'as des gens qui ont un angle, voilà. La question, elle est là, c'est est-ce qu'on a un angle ou est-ce qu'on n'a pas d'angle? Est-ce qu'on a du recul sur ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un propos sur le jeu vidéo? Parce que accepter de parler de jeu vidéo, c'est aussi... finalement, quand on parle de jeu individuellement, un par un,
ouais.
Quand on fait des tests, etc., c'est que derrière, il y a une vision du médium lui-même, qui, si elle n'est pas explicitée en tant que telle, il y a rarement des testeurs qui vont dire « moi, je vois les jeux vidéo », ou alors ils vont dire « de la merde, moi, je vois, c'est une passion, machin ». Moi-même, j'ai jamais fait de vidéo pour dire comment je perçois le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est, pourquoi, où ça nous mène, quels sont les enjeux, etc. Mais je compte le faire, d'ailleurs. Pourquoi
donc,
pas.
En quelque sorte, tu vois une démarche qui est différente entre ceux qui parlent du jeu vidéo pour exister en tant que petit personnage égocentrique et ceux qui ont une démarche qui est dictée, dirais-je, par une approche de leur critique vidéoludique.
Bah non, parce que je dis qu'en fait, à la base, il y a beaucoup de testeurs. Je vais parler essentiellement de ce que je connais, à savoir les testeurs amateurs sur Dailymotion, sur YouTube, sur des gens qui finalement lancent le jeu et parlent dessus. Hein.
Pour la plupart.
Voilà. Ben, je dirais que, voilà, pour la plupart, à la base, il y a cet élan égoïste, égotiste surtout, de vouloir parler avant tout, et pourquoi pas, parce que le net est quand même fait pour ça. Le net, le principe, c'est de vous faire croire que tout le monde a quelque chose à dire. Donc au début, on n'a pas forcément quelque chose à dire, mais on sait de quoi on va parler, de jeux vidéo. Et puis au fur et à mesure qu'on se met à parler de jeux vidéo, et qu'on se met à parler de jeux individuellement, les prendre un par un, eh ben, se dégage quand même à terme, et puis ça s'enrichit, c'est ça qui est assez formidable, ça s'enrichit aussi de la vision des autres joueurs et des autres jeux qu'on connaissait pas, qu'on a découvert par ces vidéos, et donc va se créer en nous une vision, une approche, un angle global sur le jeu vidéo, qui si on est assez, si on prend le recul nécessaire, va pouvoir enrichir finalement notre lecture des jeux individuellement, parce que c'est ça aussi la critique, c'est... La critique, c'est pas critiquer des produits un par un, comme tu l'avais dit dans le podcast. Hein, on n'en est plus à critiquer des produits pour dire sont-ils viables ou ne le sont-ils pas. Non,
c'est un peu peu, quoi.
Bah voilà, c'est un peu court, monsieur.
Exactement.
Non, c'est maintenant, ce serait plutôt de critiquer, de commenter des démarches de créateurs. Parce que les jeux vidéo, maintenant, ce ne sont plus seulement des défis. Enfin, je veux dire, critiquer un produit quand sort, par exemple, le Kinect ou des choses comme ça, les critiquer pour leur fiabilité, leur qualité, pourquoi pas, hein, avoir une démarche technique là-dessus, oui. Mais quand on critique un jeu, et particulièrement un jeu ambitieux, quoi, un jeu qui soit pas juste une application bêto d'une nouvelle technologie, voilà. Quand on critique un jeu, bah c'est de plus en plus un travail de créateur, enfin un travail de... Les jeux sont des travaux de créateur, pourquoi? Parce que la technologie, une fois qu'elle a évolué, bah elle est au point. Voilà, la PS3, on sait ce qu'on peut faire avec, concrètement. Maintenant, c'est plus la différence technique qui va vraiment faire la différence entre deux jeux. C'est une approche créative, une approche ludique, une approche de créateur. Ce sont des idées qu'on va critiquer, des idées de créateur. Et on peut pas dire une idée elle est bonne ou elle est mauvaise, on peut la mettre en perspective avec d'autres, voir en quoi elle enrichit telle autre idée, avec quoi elle fait résonance, et puis est-ce qu'elle utilise, oui, de façon pertinente la technologie qui est à sa disposition, tu vois ce que je veux dire.
Assez bien, est-ce que je peux me permettre une petite digression?
Oui.
Moi je me souviens que quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des auteurs derrière les jeux vidéo, j'ai commencé à essayer de suivre un peu l'évolution de leurs idées d'un jeu à l'autre. Est-ce que tu as ça toi par exemple?
Bah oui, on essaie de le faire. Le problème, c'est que il y a tellement d'auteurs, il y a plein de noms japonais, etc. C'est dur hein, de suivre vraiment. Après, ce qu'on fait évidemment quand on tombe sur un jeu, c'est qu'on regarde On regarde l'auteur, le main programmeur, le game designer, et on regarde ce qu'il avait fait avant. Et oui, on peut suivre maintenant, grâce au net, ça c'est formidable, l'évolution. Ce qu'on pouvait pas à l'époque faire, hein. À l'époque, on avait... Si on voulait savoir, il y a 20 ans, quel était le créateur du jeu, déjà, fallait le finir.
Déjà. Et prendre des photos.
Voilà. Et prendre des photos, et noter le nom, et ensuite, comparer avec les autres photos qu'on avait pu prendre quand on avait fini d'autres jeux, c'était un peu laborieux.
Un peu.
Surtout que la critique ne remplissait pas son rôle de... ou très peu, hein. Il y avait 2-3 stars, mais concrètement, sur pas mal d'autres jeux, on n'avait même pas le nom de l'auteur dans le test.
C'est à peine, même si on avait le nom du développeur dans les tests.
Voilà, c'est un jeu Capcom. Voilà.
Moi, justement, quand tu parles de Capcom, j'ai beaucoup aimé suivre la trajectoire presque catastrophique d'Atsui, plutôt Inaba. C'est le mec qui a fait... Okami, God Hand, mm-hmm. Les Beautiful Joe, il a aidé à faire les Phoenix Wright, et c'est lui qui a fait Steel Battalion sur Xbox. Tu sais, le jeu où il fallait le contrôleur à 150€, là.
Ah oui, oui, oui.
Le truc de robot. Et je me suis dit, le mec, il est cinglé, c'est tout. Et cette année, il nous a sorti Vanquish.
Donc, ouais, oui, oui. Bah oui, j'ai un poster dédicacé de lui.
Ouh, la classe.
Bah oui, plutôt.
Je n'ai pas tous ces jeux charmants joués. Donc, nous avons parlé... finalement d'égotisme et d'amateurisme dans la démarche, mais est-ce que dans les moyens aussi, il y a une question de se dire que maintenant, un certain niveau minimum est requis de la critique vidéoludique dans un point de vue technique, avant d'être même considérable comme regardable, peut-être ?
Ah bah peut-être, c'est vrai que moi c'est pas ma préoccupation première, et je sais que je perds peut-être de l'auditorat, hein, parce que c'est vrai que... La qualité des vidéos proposées techniquement, la qualité, la résolution, si tu veux, le son, la qualité du son. Je pense que oui, c'est important parce que ça peut ouvrir une vidéo propre, on a évidemment plus envie de la regarder. Après, c'est comme... mais je préfère avoir une vidéo où je fais pas de faute de français et où j'essaie de dire des choses intéressantes plutôt qu'une vidéo en 2000 par 3000, là. Et, après, oui, ça me paraît pas être une question cruciale, à part pour parler de... À part pour avoir du nouveau public. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tant qui attire quel public, pourquoi attirer tel... Non, c'est vraiment qu'est-ce que le net va permettre dans la façon dont va avancer la qualité de la critique. Enfin, tu vois ce que je veux dire, à la limite.
Oui, il y a une particularité à la chose. Ça, c'est
voilà, je m'occupe plus de l'émission que de la réception. La réception... on verra après, quoi. Pour l'instant, je regarde un petit peu ce qui se fait. On parlait, donc, dans le podcast, vous parliez d'IGMAG, vous parliez de Pix & Love. Il y a un bond qui a été fait, clairement, dans la critique.
Ça, c'est évident.
Ces dernières années. Il y a les cahiers du jeu vidéo. Bon, des fois, c'est un peu de la branlette, hein. Moi, je suis le premier à faire de la branlette, mais parfois, c'est agréable aussi à lire de la branlette, et c'est sympa, et... J'aime bien qu'on fasse enfin un peu de branlette sur les jeux vidéo. C'est pas infertile, la branlette, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Pas dans le domaine de la réflexion, en tout cas.
Bah non, parce que ça peut ouvrir des pistes, et y a des comparaisons qui peuvent paraître un petit peu abusées. Oh, attends, le rapprochement, quand même, il est vague. Ouais, mais pourquoi pas. Et puis, il y a une question aussi qui revient souvent quand on parle de critique, c'est parfois, certes, et d'interprétation des œuvres. Oui, mais les créateurs, ils avaient certainement pas pensé à ça, alors que toi, tu parles de ça. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, oui, oui. On peut mettre des intentions dans la tête des gens.
Voilà, c'est un argument qu'on va souvent retrouver dans l'anti-intellectualisme en général. Ça va être « Mais vous voyez des choses dans ce tableau, l'auteur, il n'y avait même pas pensé. » Mais alors ? Et alors, bah, puisque un jeu vidéo, ça n'existe pas, c'est là où c'est intéressant, un jeu vidéo, une œuvre, ça n'existe pas de manière indépendante et autonome.
Pas ex nihilo.
Voilà. Pour qu'il y ait une œuvre, il faut qu'il y ait un émetteur... avec un processus d'émission de l'œuvre, c'est-à-dire que derrière l'équipe de développement, il y a aussi des équipes de management qui vont dicter des principes, etc., des règles. Et puis, il y a aussi un background culturel. Le créateur, il vient pas de nulle part. Il est japonais, il a telle culture, etc. Donc, tout ça, même si on ne le dit pas, même si c'est pas dit, c'est aussi à prendre en compte et à resituer de temps en temps. Donc, ça, c'est le processus créatif qui, en lui-même, fait partie de l'œuvre. Quand Marcel Duchamp... sort l'urinoir et le met dans un
le
musée.
Le ready-made.
Voilà. Quand il sort un urinoir ou une roue de vélo et qu'il met ça au musée, la roue de vélo, elle est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est le processus créatif de pourquoi Marcel Duchamp a pris... Ben, pourquoi ces créateurs-là ont fait tel jeu à ce moment précis de l'histoire des jeux vidéo. C'est intéressant, c'est à prendre en compte, même si eux-mêmes n'en avaient pas conscience à ce moment-là. Hein. Donc ensuite, on a un produit fini qui représente peut-être, voilà, qui est intéressant, on y joue. Et ensuite, il y a la réception, d'une part du public, d'autre part de la critique. Et ben finalement, ils vont enrichir aussi ce jeu. Et ce jeu, c'est le produit de tout ça, de ce qu'on en a dit, de ce qui en a été fait. Enfin, tu vois, il existe avant et après le produit fini. Et c'est ça en entier qui est à prendre en compte. Zelda, ce serait pas Zelda si le public l'avait pas reçu comme étant Zelda, si tu vois ce que je veux dire.
Mais très bien.
Et son aura maintenant fait partie de Zelda. Ça y est, quand on a un jeu Zelda, il y a tout ce qui. Finalement, la réception en plus va influencer les créateurs. La façon dont tel jeu est reçu va influencer les créateurs sur leur prochaine production. Donc c'est aussi important de parler de la réception. Et c'est aussi important d'être inventif, de se prendre aussi au sérieux quand on analyse une œuvre vidéoludique. Parce que ça peut modifier le regard aussi des joueurs. Et le regard, il est important. Si on commence à prendre les jeux vidéo au sérieux, on aura des jeux vidéo plus. On aura les jeux vidéo qu'on mérite, en gros. Voilà.
Mais d'une manière ou d'une autre, il y a un double vecteur, c'est que d'un côté on parlait de l'influence, mais aussi il faut bien aussi se dire que ben, cette influence elle va dans les deux sens, hein. Elle peut soit être celle d'un médium socioculturel qui est un peu ce qui entoure la tête de la personne quand il fait le jeu, comme tu l'as dit. D'autre côté, tu as la critique qui peut de l'autre côté essayer de faire rectifier le tir. Puis après, il y a aussi le fait que parfois, ben, c'est pas nécessairement l'action de gens comme nous ne produit pas nécessairement des bons retours qui donnent des bons jeux. Je pense principalement, tu vois, tu as les exemples de. Oui, ben, on a écouté les critiques, c'est pour ça qu'on a fait le même jeu, mais en pire pour la suite.
Et inversement, tu as des critiques qui peuvent flinguer un jeu et tuer dans l'œuf une œuvre entière. En tête, j'ai les. Tu sais qu'à la sortie de Shenmue aux
Oui.
États-Unis, il s'est fait défoncer.
Oui,
Les
je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs.
joueurs et la critique américaine. Enfin, du coup, les joueurs ont presque suivi la critique, mais ça a beaucoup influencé les ventes. Et Shenmue, qui était déjà un gouffre financier pour Sega, et
Oui.
qui avait été conçu comme une œuvre globale, il y avait un 1, un 2, et le 2 appelait nécessairement un 3 puisqu'il avait une fin ouverte, et que le scénario, c'est quand même le moteur de Shenmue, c'est quand même le principal, un des principaux intérêts de Shenmue. Un Shenmue sans scénario, ça voudrait rien dire. Il avait été conçu presque dans sa globalité, écrit comme une. D'ailleurs, je crois que la suite était écrite, le créateur l'avait en tête, la suite, mais il l'a pas faite. Pourquoi?
Les
Parce que le.
7 chapitres de Shenmue étaient écrits et ils existent. Et d'ailleurs, le premier jeu, déjà pour des questions de budget, reprenait 2 chapitres et le deuxième en reprenait 3, et tagadatson.
Voilà, bah, tu vois, là, c'est clairement la critique qui a eu. La critique a un pouvoir et peut tuer dans l'œuf des créations avant. Je sais plus ce que tu me disais juste avant pour que je rebondisse sur Shenmue. Tu me
Je
disais.
parlais de l'actualité et
Ah oui, que
de
des fois ça
l'actualité.
sert à rien,
Voilà.
en gros, que les critiques disent des trucs et que des fois les éditeurs les écoutent pas du
Ou
tout.
pire, que l'effet de ce processus de discussion peut être négatif aussi.
Oui, aussi. Mais maintenant, tu sais, il y a du lobbying aussi des fans qui squattent les.
Ah oui, non, mais bon, ça c'est toujours le cas. Hein.
Qui squattent les forums des développeurs, et finalement les développeurs se disent, oula, ils ont mal reçu la bêta ou les premières images, on va peut-être changer ça, changer ci. Et bah, tout ça c'est intéressant parce que ça permet à terme de voir qu'est-ce qui était vraiment le noyau dur du jeu, tu vois, quelle était vraiment l'idée maîtresse sur laquelle ils ne sont pas revenus, et qu'est-ce qui est accessoire, et qu'est-ce que. Donc ça permet de mieux analyser le jeu aussi.
Alors, il y a un truc qui m'a paru assez logique il y a quelques années, c'est que je me suis rendu compte que sur le domaine du jeu vidéo en tant que tel, les gens avaient bien entendu le droit à voir leur propre avis, ce qui semble un peu surnaturel, mais c'est le cas.
Ah,
Et
je
que
vois ce que tu veux
donc,
dire.
il y a souvent une multiplicité d'avis sur le même jeu. Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de gens qui adorent Castlevania Vampire's Kiss, là où je pense que c'est pas forcément le meilleur de la série, des
J'en
choses
fais
comme ça.
partie, des gens qui adorent Vampire's Kiss.
Non, non, mais c'est très bien, je veux dire, c'est un jeu très compétent, seulement, il y a des gens qui aiment plus Vampire's Kiss que Castlevania 4 et vice-versa, et tout ça, c'est parfaitement logique. Par contre, c'est comme on dit en anglais, c'est pas parce que ça. On dit que la viande d'une personne peut être le poison de l'autre.
Oui. Ah oui, comment tu le dis?
On dit One man's meat is another man's poison.
Oh, c'est joli quand tu le dis.
Ah, oui, j'ai fait beaucoup d'anglais.
Donc en gros, tu es en train de me dire que le goût, de toute façon, c'est relatif.
Non, que je veux dire que c'est pas parce qu'on considère qu'on a poussé son processus critique au maximum vers une espèce d'opposition où on est finalement inattaquable, où réfléchis à ça peut plaire pour telle raison, ça peut déplaire pour telle raison, ça n'empêchera pas que les gens pourront revenir avec un avis qui est peut-être différent ou diamétralement opposé que celui qu'on met en avant.
Mais tant mieux, et puis c'est le cas pour la critique littéraire, et puis c'est le cas pour la critique cinématographique, je pense pas que ce soit vraiment propre aux jeux vidéo, ça, le fait que... Alors après, ça n'empêche pas d'en discuter.
Mais encore moins dans un médium où la réception qu'on en a en boucle fermée avec la machine a beaucoup d'importance, c'est ça qui ça a de magnifique, les jeux vidéo c'est limite hypnotique.
Absolument, et c'est ce que je disais, je sais pas si tu te rappelles quand je parlais des Sims dans le deuxième podcast, où je disais ce qui était intéressant c'est que les Sims permettaient de mettre à jour la façon dont chaque joueur va avoir une manière différente de prendre plaisir en jouant aux jeux vidéo. Donc évidemment la réception d'un jeu est subjective. Après, parce qu'on n'a pas tous le même plaisir sur le même type de mécanisme. Mais après, je suis évidemment contre l'adage qui dit qu'on ne discute pas les goûts et les couleurs, parce que
c'est ridicule.
Voilà, c'est quelque chose d'absolu, et qu'on a des goûts, et qu'ils nous sont... c'est la grande philosophie du être soi-même, être naturel, on a des goûts qui nous sont propres, et c'est le reflet de notre personnalité, ils ne doivent pas être critiqués. Si, un goût, c'est jamais qu'une somme d'influence, c'est relatif parce que ça se place dans une époque, etc. Et suite
c'est une philosophie de la médiocrité aussi.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a un peu de ça. Et c'est du relativisme absolu, donc c'est par définition, c'est crétin, je suis contre le relativisme absolu. En gros, ce que je veux dire, c'est que des goûts, ils peuvent s'expliquer, et ils doivent se justifier. Donc quand on fait une critique, faut aussi avoir en tête que nous sommes la somme d'expériences, et de... Voilà, on n'a pas tous le même plaisir sur les mêmes choses parce qu'on n'a pas eu telle expérience. Moi, je sais que, par exemple, il y a une quantité de jeux sur lesquels je rejoue. Par exemple, quand je joue à un Dragon Quest, j'ai pas autant de plaisir que j'avais la première fois que j'ai fait un Dragon Quest. Pour certaines raisons, j'ai eu certains plaisirs. Et finalement, quand je rejoue maintenant à un Dragon Quest, même si je vais être surpris par les nouveautés, etc., je vais quand même rechercher comme un... Comme une Madeleine de Proust, hein, je vais rechercher les premiers plaisirs que j'ai eus en jouant à ce premier Dragon Quest. Et si pour des raisons X ou Y, je n'avais pas rencontré, je n'avais pas fait cette rencontre avec ce plaisir-là à ce moment précis, j'apprécierais peut-être moins Dragon Quest, ou si je l'avais rencontré dans une période où j'étais omnubilé par un autre type de jeu et que j'étais passé à côté de ce truc-là. Donc, évidemment, mais il faut l'avoir en tête, ça. Voilà.
Mais je crois que pour des gens comme nous, on a déjà tellement d'univers dans notre tête que de voir certains univers évoluer ou changer ou ne pas nécessairement être tels qu'on les a laissés, je pense, dans l'œuvre de Dragon Quest, ce qui est amusant, c'est que c'est à peu près le même univers à chaque fois. Les trois premiers, si j'ai bon souvenir, ils sont liés scénaristiquement sur NES. Mmh. Et ensuite, c'est à peu près la même histoire, mais bouger un petit peu. Mmh. Et donc, parfois, tu as aussi de te dire « Mais je n'ai pas laissé Hyrule dans un aussi mauvais état. » Et tu te retournes et tu dis « Et maintenant, il fait tout sombre et on se croirait dans un Bruegel. C'est quoi cette couille ?»
Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, par exemple, si on parle de Dragon Quest, c'est pas tant l'univers. Quand je te parle de plaisir et de machin, c'est vraiment pas l'univers, c'est vraiment les mécanismes de jeu. Que eux, évidemment, sont restés assez inchangés.
J'essayais de partir en biais sur une autre explication aussi, donc.
Mais bon, après, l'univers, oui, on va développer une familiarité avec un univers qui fait que, ah, tiens, je suis en terre inconnue, et tiens, est-ce que ça a changé Mais voilà, ce qui m'intéresse dans Dragon Quest, moi, j'ai analysé, après, faut faire une auto-analyse de moi, qu'est-ce qui me plaît vraiment dans Dragon Quest dans les mécaniques de jeu, et ça c'est un truc que les testeurs ont tendance à un peu passer à la trappe, ils vont te parler des graphismes, ils vont te parler de l'univers, ils vont te parler de plein de trucs.
S'ils sont doués, ils te parlent de l'expérience.
De l'expérience de quoi ?
Du ressenti que tu pourrais avoir éventuellement en y jouant.
Oui, mais souvent on va avoir un ressenti, puisqu'on commence à considérer les jeux vidéo comme une œuvre d'art. Donc les développeurs, les testeurs assez souvent vont parler d'un ressenti... ils vont parler en face, de façon très confuse, un peu comme ce que je fais là, de façon très confuse de leurs émotions dans des moments particuliers du jeu. Ils vont parler de scénarios, ils vont parler d'images qui vont leur revenir, etc. Et c'est très confus. Peu vont à froid dire, voilà, c'est ce principe de gagner de l'expérience qui fait qu'à chaque petite victoire, je vais avoir le sentiment d'avoir progressé. Ils vont faire cette analyse, décortiquer les mécaniques de jeu qui vraiment vont produire du plaisir. Et qui en plus sont vraiment les seules choses à être propres aux jeux vidéo.
Parce la que récompense.
Voilà, c'est ça, c'est exactement
motive.
Ça. C'est exactement ça.
Surtout que dans Dragon Quest, évidemment, t'as toujours l'impression que ce que tu fais construit finalement l'œuvre de ton travail dans Dragon Quest.
Ouais, voilà, tu construis ton personnage, tu construis ta progression et. Non, puis vraiment, moi, ouais. Il faudrait que je. On va pas parler de Dragon Quest, il faudrait que je.
Non.
Mais je crois que moi-même, j'ai essayé de le faire, mais c'est difficile parce qu'il y a tout aussi un vocabulaire à créer. Je pense que la critique, elle a beaucoup de travail encore. Et il est temps de. Quand je disais qu'il était temps de prendre les jeux vidéo au sérieux, je pense que commence à émerger maintenant une critique, pas une critique, mais un discours critique sur les jeux vidéo dans le monde universitaire.
C'est vrai.
Et c'est primordial. C'est primordial parce que c'est ce qui nous restera dans les 50 ans à venir.
En tant qu'universitaire raté, j'ai souvenir qu'on parlait beaucoup de comparaisons intermédiaires. Et que donc, vu que maintenant le journalisme s'est approprié une nouvelle dialectique pour parler du cinéma, de la musique, grâce aussi à ce qui se passait sur les blogs, sur Internet, malheureusement, il se pose aussi la question de pouvoir faire la comparaison entre les deux. Et si on veut parler de jeux vidéo, on peut en parler pour des gens qui ne comprennent pas de quoi il est question, en faisant une comparaison avec le reste des médias.
Oui, bien sûr. Mais il faut aussi
donner une passerelle.
Il faut aussi que des gens commencent à avoir des discours un petit peu plus structurés, un peu plus finaux, un peu plus intelligents sur les jeux vidéo, parce que ça aussi, ça fera avancer le médium. Quand tu penses au cahier du cinéma, quand tu penses à la nouvelle vague française, tous ces réalisateurs de la nouvelle vague, ou beaucoup, étaient avant tout des critiques avisées du cinéma qui avaient produit un nouveau discours sur le cinéma, qui ensuite avaient voulu changer les choses parce qu'ils avaient compris comment ça se passait, ils voulaient du coup faire autrement. Le discours va créer après de nouvelles façons d'envisager le médium lui-même.
Totalement d'accord.
Tu vois en quoi c'est important la critique ?
Oui, mais il y a toujours la question de savoir si la critique a vraiment l'impact qu'on prétend qu'elle a. Et c'est un peu la question. C'est un peu, j'imagine qu'on est de deux écoles différentes. Moi, je suis un peu dubitatif sur l'effet de la critique. Et je pense qu'une critique professionnelle de haut niveau est absolument nécessaire à ce qu'il existe au moins un discours sur le média. Ça, au moins, c'est certain.
Et aussi un discours universitaire et des critiques institutionnalisées, si tu veux. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va transformer le jeu vidéo en œuvre d'art, en art, vraiment, en art au sens bourgeois du terme, quoi, en art noble, tu vois ce que je veux dire ?
La reconnaissance, quoi.
Ben oui, la reconnaissance, parce que ça amènera beaucoup de choses quand il y aura cette reconnaissance. Ça amènera des créateurs, parce que les créateurs commenceront enfin à prendre ce qu'ils sont en train de faire vraiment, vraiment au sérieux. C'est de plus en plus, hein, mais je veux dire, si la critique commence à dire ce ne sont pas que des jouets, les créateurs vont se dire je ne suis pas en train de faire que du jouet, donc je peux peut-être être un peu plus ambitieux que ce que j'étais auparavant.
Ça, c'est évident.
Donc voilà l'importance de la critique. Et on a, bon, encore une fois, on a plus parlé de critique à proprement parler que de la critique amateur, mais je pense que la critique amateur, ayant cette liberté, et ayant surtout cette effervescence, ce foisonnement, il y en a tellement que dans le lot, j'espère qu'il y aura des gens qui vont amener quelque chose de nouveau à la critique, quelque chose de pertinent, et je pense que le nombre peut faire que sur la centaine de, je sais pas, sur Dailymotion, combien il y a de mecs qui font des vidéos sur les jeux vidéo, ils sont peut-être 3000, mais sur les 3000, j'espère qu'il y aura quelques gars qui vont mettre les couilles dans la friteuse et dire « Allez, vas-y, je vais commencer à parler de jeux vidéo un petit peu autrement, voir peut-être des gens vont suivre, peut-être que ces gars-là après seront récupérés. » Moi, par exemple, c'est ce que je me souhaite, être récupéré à un moment
utiliser ceci comme un tremplin vers une position où ta voix est pas seulement écoutée, mais elle est lue, en somme.
Voilà, elle est reconnue, si tu veux, avoir même sur ce discours-là une reconnaissance du fait d'une diffusion plus large, et que ce discours-là, donc je suis pas le seul à avoir, hein, qu'il y a plein de gens qui l'ont, évidemment, Et moi, ce que je vais me contenter de faire, c'est essayer de vulgariser, de proposer ça à des gens que ça peut intéresser, voilà. Et essayer de... Enfin voilà, en gros.
Non, c'est une noble tâche, il faut pas croire, d'une manière ou d'une autre, agir pour que le jeu vidéo se popularise, pour que le jeu vidéo soit popularisé, pas nécessairement parce qu'il a de plus populiste, justement, c'est un effort. C'est un effort que peu de gens peuvent totalement prétendre être en train de faire, d'une manière ou d'une autre.
Ben oui, parce qu'on est resté tellement sur le jeu vidéo, c'est une expérience subjective. Alors moi, je parle de mon ressenti, et puis en même temps, ça mène pas loin tout ça. Enfin, si on décortique pas son ressenti et qu'on se contente d'impressions vagues et de faire. Il y a plusieurs écoles dans la critique. Hein. Parler uniquement de son ressenti, ça peut être des articles très agréables à lire si c'est bien fait.
Ce qu'on appelait à une époque le New School Journalism. En question vidéoludique, le New School Journalism of Gaming était là. Ok, je me suis levé à 6h du matin pour jouer à D sur Saturn, et c'est une
Mais oui,
expérience.
mais j'avais entendu un truc comme ça, oui. C'était un journaliste qui était avec des bikers, machin, t'as peut-être entendu parler de ça, ce mec-là, un Américain,
Non.
qui du coup s'était immergé avec les bikers, avait presque fait du journalisme roman. Ça peut être intéressant aussi, parce que du coup ça ne nie pas sa subjectivité, et ça peut apporter autre chose aussi.
Il faudrait un Hunter S. Thompson du jeu vidéo, en fait.
Il s'appelait Hunter S. Thompson?
Non, mais c'est le mec dedans Las Vegas Parano, tu vois, le mec qui est... Bon, on va faire du journalisme sur le vécu,
Mais c'est
maintenant.
lui dont je parle, c'est lui dont
Ah,
je parle.
d'accord, il
Ouais.
s'appelait Hunter S. Thompson, donc
D'accord, bah merci.
je te le confirme. Ses livres sont très intéressants à lire, d'ailleurs.
Et ben, bah voilà.
Nous avons
Donc.
presque fait le tour. Alors, portée dernier, tu as envie de porter une saillie puissante contre quelque chose qui t'énerve dans le monde de la critique vidéoludique telle qu'elle est vécue actuellement sur Dailymotion? Il est
Oh,
temps, personne ne nous écoute.
tu attends du ragot pour que je casse quelqu'un
Je n'attends
d'eux.
pas de ragot, j'attends pas juste si tu vois tout d'un coup, par exemple, une habitude dans la manière dont tous ces tests finissent par se ressembler et qu'il y a donc des choses qui s'accumulent dans ton énervement, tu n'as pas besoin de pointer du doigt.
Non, moi ce que j'aime bien c'est les. Parce que c'est vrai que je regarde pas les tests de jeux contemporains, à part si je vois. À part si j'ai vraiment envie de l'acheter pour savoir si c'est un bon produit, si tu veux, parce que c'est ce qu'ils vont juste se contenter de nous dire, est-ce que ça fonctionne bien ou pas, quoi.
Oh, pas seulement quand même, merde.
Le vrai travail critique, assez souvent, c'est souvent sur les jeux rétro, parce qu'on a le recul nécessaire et on a le.
Ah, j'aurais un truc amusant à dire
Vas-y, je t'en
là-dessus
prie,
après,
je
je
t'en
t'en
prie.
prie.
Non, vas-y.
Bah, pour moi, en fait, quand je... Tu vois, j'essaye d'avoir 50% de rétro, 50% de pas rétro chez moi.
Oui.
Mais en même temps, les jeux qui sortent, j'en parle jamais. Je sais pas si t'as remarqué, mais moi, un jeu qui sort, j'en fais 3 fois par an, tu vois, ces gens. Ah, mais personne s'est fatigué à faire le vidéo test de celui-là, donc je sais en parler, je vais m'en occuper. Mais pour le reste, je laisse passer 6 à 9 mois de manière à pouvoir me dire toujours que il y a déjà du temps qui a passé, et vu que l'effet de la première grosse annonce est morte, tu peux déjà te mettre à réfléchir sur la chose. Par exemple, Assassin's Creed, Brotherhood, passer l'effet de mode, c'est le 2 avec un mode multiplayer, tu vois ce que je veux dire? Des trucs comme ça, c'est... Il faut savoir aussi se mettre des choses en tête. Et si tu te mets dans ta tête que tu fais ta vidéo pour qu'elle soit vue dans 10 ans, ça peut aider.
Ben oui, absolument. C'est pour ça que je parlais aussi du travail universitaire, qui est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est les universitaires qui vont prendre le truc dans la globalité, ils vont pas faire de l'actualité, si tu veux, ils vont vraiment réfléchir globalement. Et il y a des exemples, c'est un exemple que je cite souvent, mais de romanciers du 19e, qui vendaient énormément au 19e, qui étaient des stars à leur époque,
Oui.
et qu'on a complètement oublié maintenant. Pourquoi? Parce que la critique ne s'en est pas, la critique et les universitaires après ne s'en sont pas emparés et n'ont pas jugé intéressante au vu de l'histoire générale de la littérature. Se dit bah tiens, rétrospectivement, ce mec-là, il a quand même pas apporté grand-chose. Et même s'il vendait énormément à l'époque. Donc moi j'attends ça d'un vidéotesteur amateur. Pourquoi? Parce qu'on a au moins cette liberté de ne pas être soumis à l'actualité, de ne pas être soumis à quelque pression que ce soit. Et donc, bah on est les plus à même de, je pense, prendre ce recul, même si certains journalistes papier commencent à le faire dans IG Mag ou dans Pixel Love, par exemple.
Par exemple.
Voilà.
Eh ben, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire.
Oui, voilà tout ce que j'avais à rajouter, en tout cas à l'écoute de ce merveilleux podcast numéro 3.
Mais je me rends compte qu'on n'a pas nécessairement fait le même type de travail qu'on ferait d'habitude si t'étais là, tu vois. Il y avait beaucoup plus de vannes à la con.
Oui, je suis chiant, hein,
Non, non,
fondamentalement.
non, c'est pas ça, c'est que c'est aussi pour ça que t'es là pour nous cadrer, rajouter. T'es là pour susciter mon envie de faire un concours de cerveau, en fait.
Ah
Non,
oui.
c'est genre, j'y arrive pas nécessairement, tu vois, mais ça me monte mon niveau aussi. Donc, c'était le troisième et demi podcast. suite à la demande de tout le monde. N'hésitez pas à nous mettre éventuellement des petits bonus de 5 étoiles sur iTunes si vous croyez qu'on le mérite. On va remercier les gens qui n'étaient pas là. On va remercier Numa Kalios Baudouin et Yann Inksreader de Radio 01.net. Et tout ça, et on vous dit salut.
Salut.